Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre à notre dojo. Tiens, c'est plus un studio de radio, c'est un dojo de radio en compagnie de Dominique Buisson pour cette émission Instant Japon qui vous familiarise avec cette culture merveilleuse, passionnante, très complexe, très différente de la nôtre. C'est la civilisation japonaise. Le mois dernier, on a évoqué le bouddhisme zen. Il y avait beaucoup à dire. C'était très riche, très intéressant. On va continuer sur notre lancée. Dominique, si vous le souhaitez, nous parler de quelques grands penseurs du zen, quelques grands moines.
Oui, bien sûr. Beaucoup de ces moines zen ont laissé une trace très très forte dans l'imaginaire collectif japonais. Surtout en ce moment, avec le phénomène manga, on s'intéresse de plus en plus à des personnages iconiques du passé. Et donc, il y a des mangas sur des moines zen comme Ikkyu, dont je vais parler, ou d'autres. Donc, c'est important. Donc, le premier que je serais tenté de citer, c'est Eisai Myōan. C'est l'introducteur de la première secte dont j'ai parlé le mois dernier, la secte Rinzai. C'est un moine qui avait étudié, comme tous pratiquement, le bouddhisme ésotérique avant d'aller chercher les sources du bouddhisme en Chine. Il a étudié en Chine avec différents maîtres, dont le maître de l'école Lin Tzu, qui se prononce Rinzai en japonais.
Voilà
l'explication. Il est resté 4 ans avec ce maître. Il a reçu de lui le sceau de transmission, qui l'autorise à enseigner, et le chasse-mouche, qui est l'insigne des maîtres. Il rentre au Japon en 1191 pour y établir le premier temple zen qui se trouve à Hakata, au nord de Kyushu. Près du temple, il plante des plants de thé qu'il avait ramenés de Chine. Et en 1212, pas 1515, hein, 1212, hein. Il publie le Kisaiyojoki, le livre du thé. Plus précisément, le livre qui conserve la santé. Sans jeu de mots avec thé. C'est ce livre sur le thé médicinal qui, progressivement, nous amènera à la cérémonie du thé. Le second, c'est Enni Benen. C'est un autre moine qui est revenu de 6 ans passés en Chine, dans la lignée de Eisai. Il a fondé le Tofukuji de Kyoto en 1243. Le Tofukuji, c'est un très très gros temple zen du Japon. C'est d'ailleurs à l'époque la plus grande congrégation bouddhique de l'époque, qui est en relation avec le continent chinois, et même d'autres sectes cohabitent dans son temple. Des sectes ésotériques cohabitent avec la secte Rinzai. Alors lui, il explique que le zen est l'esprit de Bouddha, la discipline n'est que son apparence, et la doctrine seulement des mots. Quant à l'invocation du nom de Bouddha, ce n'est qu'un stratagème. Donc il se méfie beaucoup de la verbalisation qui récupère en fait les traditions. Ce qu'il propose à la place, c'est une mise en corps, je dirais, de la religion, beaucoup plus qu'une mise en mots ou en abîme sur les principes. Pour lui, c'est si vous souhaitez acquérir les mérites dans le zazen, donc la méditation assise, pratiquer jour après jour, imaginez-vous tomber au fond d'un puits de 1000 mètres.
On ne peut plus remonter.
Du matin au soir et du soir au matin, n'ayez aucune autre pensée que celle de sortir de ce puits. Alors vous y parviendrez. Sinon, j'aurais fait aujourd'hui ce grand mensonge qui me conduirait tout droit en enfer.
Il y a quand même l'enfer alors dans le bouddhisme zen.
Dans le bouddhisme, il y a l'enfer.
Il y a l'enfer. Hein.
C'est une des étapes des 6 mondes, justement. Le troisième, c'est probablement, par la profondeur et l'originalité de sa pensée, le plus grand de tous ces maîtres zen, c'est Dogen Eiji. Il est souvent considéré comme le plus grand philosophe du Japon, même indépendamment de la religion, et c'est l'un des plus importants penseurs de toute l'histoire du bouddhisme, toute secte comprise. C'était également un poète remarquable. Son œuvre considérable continue d'imprégner la spiritualité, mais aussi l'art culinaire japonais, parce qu'il a écrit sur les repas et la vertu des repas dans le bouddhisme.
C'est-à-dire que la confection des repas et manger peut aussi conduire à l'éveil ?
Voilà, bien sûr, puisque, comme je l'ai dit le mois dernier, c'est une méditation active.
Une méditation active.
Quand il reçoit son ordination monastique, le Japon est en pleine décadence du bouddhisme. Donc il fallait quand même quelqu'un qui ait du poids aussi pour reproposer quelque chose de nouveau. Donc il a commencé par relever les contradictions entre les enseignements purement bouddhiques des autres sectes, sur aussi le côté un petit peu m'as-tu vu de certains grands temples, la richesse, etc. Et lui prône un retour à la simplicité prônée par Bouddha lui-même.
Et c'est un peu Luther, quoi, finalement.
Il y a un petit peu de ça.
Il y a un peu de ça.
Il y a un petit peu de ça. Alors lui, il a une vie quand même assez extraordinaire. Il faut reconnaître que c'est un garçon qui a une vie qui se prête à la littérature, on va dire. Il est issu d'une famille aristocratique qui est proche de l'empereur. Il sait lire des poèmes en chinois à l'âge de 4 ans. Ouf. Il assiste à la cour à toutes les luttes de pouvoir. Il voit son père mourir, puis sa mère, lorsqu'il atteint 7 ans.
Donc maturité.
Il y a, au niveau de la maturité, voilà. Et quelques jours avant sa mort, d'ailleurs, sa mère lui a demandé de devenir moine pour aider au salut de tous les êtres. Alors, un des aspects les plus originaux de sa pensée à l'époque concerne sa conception du rapport de la partie avec le tout. Selon Dogen, on ne peut saisir la réalité des choses que sous une forme déterminée.
Pas dans le vague, quoi. C'est ça. C'est...
Non, il faut... Comment je vais vous dire ça? On peut saisir tout l'univers à travers la présence d'un seul brin d'herbe, d'accord, par exemple, à condition de saisir toute la nature de ce brin d'herbe, la vraie nature profonde du brin d'herbe.
Et comment y arrive-t-on?
Ah ben ça, il faut aller dans un dojo. Hein. Donc la présence d'un brin d'herbe peut représenter la vérité bouddhique. Alors cette conception s'applique aussi au temps. Le temps n'apparaît lui aussi que sous une forme déterminée qu'on appelle un instant. Instant Japon, donc.
Instant Japon.
La conception successive du passé, présent, futur est illusoire. Seul l'instant présent est réel. Par conséquent, chaque instant, aussi bref soit-il, représente le temps dans sa totalité, sans qu'il soit nécessaire d'attendre d'autres instants. Ouais. Donc on en revient toujours à ce fondamental du bouddhisme, ici et maintenant.
Voilà, qu'on retrouve aussi dans l'art du haïku, par exemple.
Oui, par exemple.
À travers la poésie, on doit... Voilà.
Un instant qui représente tous les instants, un brin d'herbe qui représente tous les êtres, symbolise donc la vérité bouddhique d'une manière beaucoup plus adéquate que par le langage. Ce qui fait que, selon lui, la vérité bouddhique est donc plus ou moins en conflit avec les expressions conceptuelles qu'on a tendance à utiliser le plus souvent. Et il disait tout simplement, si tu ne trouves pas la vérité à l'endroit où tu es, où espères-tu la trouver ?
D'accord.
Alors au Japon, surtout, l'œuvre de Dogen a été comparée à divers auteurs occidentaux. Alors je vais vous citer, vous allez voir les références. Comme dit Lucchini, c'est du lourd. Saint Augustin.
Ça commence bien. Hein.
Maître Eckhart. Ouais. Merleau-Ponty. Sartre. Derrida. Heidegger.
Mais il va de soi qu'il les dépasse tous. Hein.
Ben, les nombre de philosophes que je connais l'intègrent au même niveau, en tous les cas, et justement essayent de voir le tissage qu'il peut y avoir entre ces différents personnages au niveau de la sagesse.
Avec Maître Eckhart, ça paraît évident d'ailleurs, hein, l'espèce de théologie négative de Maître Eckhart ressemble beaucoup effectivement au Zen. Hein.
Donc il a écrit un livre fondamental qui est la référence, hein, qui s'appelle le Shobogenzo, il veut dire le trésor de l'œil de la vraie loi. Là, il est temps de vous présenter... Hakuin et Kaku. Lui, il est né dans une famille de samouraïs. Il a fait évoluer l'école Rinzai et c'est lui qui a systématisé la pratique du koan, donc ces fameux paradoxes qu'on donne en pâture aux disciples. C'était un grand lettré. Il disait malgré tout des choses très très simples. Hein. Regardez droit dans votre cœur, n'essayez pas de devenir Bouddha. Éveillez simplement en vous la bouddhéité qui est présente.
Devenez qui vous êtes, quoi.
Devenez qui vous êtes. C'était en même temps un très grand peintre et un grand calligraphe. Il a laissé à peu près 10 000 peintures, très humoristique la plupart du temps. Il a exprimé son enseignement vraiment en direction des gens simples, des gens ordinaires, et pour que les gens puissent comprendre vraiment... toute la posture de la méditation assise, il avait une méthode qu'il appelait Nanso, qui est un peu particulière. Ah. Imaginez-vous assis en zazen.
D'accord.
Un morceau de beurre de la taille d'un œuf posé sur la tête.
On l'a déjà moins, mais on va faire un effort.
On peut avoir des grands moments de solitude aussi, oui. Peu à peu, le beurre fond et suinte lentement sur vos épaules. Et donc, Aquin demandait à ses disciples de visualiser le beurre en train de fondre et dégouliner sur leur corps pendant qu'ils méditaient, afin d'acquérir une conscience plus aiguë de leur esprit et de leur corps. Et donc, de se rapprocher de l'illumination. Parce que le corps et l'esprit ne font qu'un. Donc, on ne peut pas simplement se focaliser sur l'un ou sur l'autre.
D'accord.
Voilà. D'où la nécessité du beurre.
C'était très intelligent, finalement, ce petit détail qui paraît trivial, finalement. Voilà.
Oui, mais la trivialité fait partie intrinsèque du processus aussi. Surtout quand on parle de corps.
Ouais.
Donc, il a réaffirmé l'importance du zazen aussi, que l'école Rinzai avait tendance à négliger au profit, justement, des koans et des études intellectuelles de textes. Et donc, c'est un personnage qui est très, très intéressant. Mais il y a encore plus drôle.
Ah, c'était bien là avec Aquin déjà.
C'est le fameux Ikkyu Soyun. Donc lui, il a vécu au XVe siècle. C'est le fils illégitime de l'empereur Go-Komatsu. Donc il va d'abord renier son rang, puis mettre son enseignement en question avant de trouver la sagesse par lui-même. Alors il était réputé pour son excentricité, ce garçon. Ce qui prouve que le chemin du zen peut prendre de nombreuses voies, y compris les plus originales et les plus anti-bouddhiques. On le connaît pour ses frasques, sa vie dissolue, son goût pour le saké, la viande et les femmes, ses réparties cinglantes et le regard incisif qu'il portait sur la société de son temps. Bref, son anti-conformisme.
Ça, oui, viande et alcool, dites donc. Hein.
Ouais. La viande. Dans le bouddhisme, on ne consomme pas de viande, puisque on passe dans les six mondes par le stade de l'animal. Donc,
il va être très mal vu. Hein.
Voilà. Alors, en dehors de ça, c'est un immense poète, en chinois classique, un grand dessinateur, un grand flûtiste, créateur de jardins. Donc, il a vraiment marqué l'imaginaire japonais sur beaucoup, beaucoup de plans. Puis, à un moment, il s'est retiré loin des monastères et des palais pour attendre sereinement la mort. Nuage fou, ou âne aveugle, comme il s'était lui-même baptisé, avouait préférer la fréquentation des tavernes et des maisons closes à celle des monastères.
On peut le comprendre. On peut comprendre.
Mais néanmoins, en 1474, il est devenu l'abbé du Daitokuji, c'est le plus grand temple zen de Kyoto, le Daitokuji, où il avait pratiqué 10 années dans sa jeunesse. Et fait très curieux, c'est qu'il a refusé systématiquement d'avoir un successeur et donc de transmettre, comme on le faisait dans chaque grand maître, sentant sa mort venir, donne le saut de transmission.
Et pour lui, c'était impossible de transmettre la vérité.
Lui, il estime que c'est à chacun de devoir faire tout le chemin pour parvenir à ce rôle qui est d'être capable de conseiller d'autres personnes. On ne peut pas partir avec un héritage, déjà, qui serait celui de son prédécesseur. Ouais. Ça n'empêche pas qu'il prenne la sagesse de son prédécesseur, d'accord, mais pas forcément le côté administratif de la chose. Voilà. Alors, comme le dit le moine Yamada, qui est l'actuel supérieur du temple Shinjōan, qui est un sous-temple du Daitokuji, d'ailleurs, Ikkyu, c'était dans ce temple-là que Ikkyu vivait. Donc Yamada dit, il est venu de l'origine, il a souffert, il a vécu, il a aimé, il a médité longtemps, il a atteint l'éveil, puis il est retourné à l'origine.
C'est très beau.
Voilà, et il n'y a rien d'autre à dire que ça.
Oui.
Alors, si vous voulez voir un peu sa vie, il y a un manga qui est sorti de Sakaguchi chez Vent d'Ouest, donc un éditeur de manga en France. Il y a 6 volumes publiés pour l'instant et c'est toute sa vie.
Ça, c'est intéressant, un document intéressant. Oui.
C'est très intéressant. En plus, il est intéressant sur un autre plan, c'est qu'il a tenté de faire évoluer les règles monastiques concernant les femmes. Partant du principe que les femmes sont la source de laquelle chaque être humain est né, y compris Bouddha et Bodhidharma.
Mais est-ce qu'il y avait des non-zen alors? Non, il n'y avait pas de non-zen.
Si, il y en avait, mais ça s'est surtout développé justement après lui. dans les monastères, avoir des monastères féminins. Avant, il y avait des nonnes, mais qui étaient plutôt au service des temples funéraires, d'accord, par exemple. Chaque grand seigneur avait souvent un temple funéraire et elles étaient plutôt dans ce genre de truc. Elles n'étaient pas dans les grands monastères d'enseignement, par exemple.
Voilà. Alors là, vous nous avez parlé des grands maîtres. C'est bien, mais pour le moine lambda, par exemple, qui vit là aujourd'hui, qui est moine zen, comment ça se passe ?
Alors le petit moine, lui, lui, c'est pas facile. Donc ça se dit « unsui ». Celui qui erre de lieu en lieu en quête de son maître. On peut rajouter comme un nuage qui glisse dans le ciel, puisque un c'est nuage et sui c'est l'eau. Donc voilà l'image d'un moine. Levé, 3h30 l'été, 4h30 l'hiver. 3h l'heure des sessions intensives, il y en a deux par an. 15 minutes pour se laver, faire ses besoins, s'habiller. Direction salle du pavillon central pour la récitation des sutras et du texte de la rétrocession des mérites pour le salut des défunts. Ensuite, salle de méditation. À nouveau, des récitations de sutras, puis 40 minutes de méditation. 40 minutes, c'est le temps de consommation d'un bâtonnet d'encens.
Ah,
voilà, c'est très pratique.
Pas moyen de tricher, là.
Mais à la fin du zazen, service du thé à la prune acide pour chasser les dernières vagues du sommeil. Et c'est ces prunes salées là, c'est très ça vous donne beaucoup de peps.
On mange quand même, rassurez-nous là.
Non, on mange pratiquement pas, très peu. Il y a deux repas par jour de toute façon. Le premier repas, donc d'abord on récite à nouveau des sutras au Bouddha qui gère la cuisine. Donc deux repas par jour. Celui du matin est composé d'une bouillie de riz qui est appelée, vous allez voir, c'est très nourrissant, soupe où se mire le plafond tellement il est clair. On peut s'y voir dedans, quoi. Il est accompagné d'un morceau de navet saumuré au goût assez fort. Et sur ce maigre repas, on prélève 7 grains de riz pour les offrir aux gakis, les esprits affamés qui règnent dans l'un des 6 mondes des réincarnations. Interdiction de faire du bruit, même en mâchant le navet, qui est pourtant très croquant.
Aye.
Après cette collation, a lieu le thé collectif, qui va intervenir 2 fois dans la journée. À la fin, on rince le bol avec le reste de thé, le bol de riz, hein, et on avale tout. Donc, on ne laisse pas un seul grain de riz, évidemment, et on essuie. Ensuite vient l'annonce des services de la journée. Cuisine, entretien du pavillon de Bouddha, travaux manuels, approvisionnement, accueil des visiteurs, comptabilité, etc., etc. Ensuite, on va passer à la consultation personnelle avec le maître. Ouais, alors ouais. Ça, c'est le moment le plus important, ouais. Puisque tout se transmet par le maître. C'est là où le Rinzai, par exemple, avec ses fameux koans, c'est là où, le koan va s'exercer. Ce sont donc ces questions de mise à l'épreuve, hein, comme « qu'est-ce que le rien ?» Si vous répondez le rien, c'est tout, vous avez gagné.
Vous avez parlé des services de la journée.
Parce qu'il y a un programme mensuel aussi.
Ouais.
Alors, rapidement, les jours qui se terminent par les chiffres 1 et 6, puis 3 et 8 sont réservés aux journées de mendicité et de ramassage du riz. Ceux qui se terminent par 2 et 7, puis 5 et 10 sont consacrés à l'enseignement du maître. Les journées 4 et 9 sont celles du rasage, y compris du crâne, et du nettoyage du monastère et du jardin. Le bain tombe aussi ce jour-là. Le 14 du mois, ainsi que le dernier jour, sont dits de repos. Le repos, ce sont les seuls dont l'après-midi ne soit pas consacré au travail. Et surtout, on peut attendre le lever du soleil pour se lever.
Non, mais Ikkyu aurait été très malheureux, je suis désolé de le dire.
Non, mais il a vécu
toute sa vie comme ça. Ouais.
Alors, dans les travaux qui sont programmés, j'ai cité la collecte de riz et la collecte d'aumônes. Ça, c'est extrêmement important, puisque les moines zen ne mangent que ce qu'ils récoltent de la mendicité. S'ils ne récoltent rien, ils ne mangent pas. Donc, ils passent de maison en maison pour amener du riz pour la communauté. Et s'il faut faire 10 km, il fait 10 km. Voilà. Pour les aumônes, c'est un petit peu la même chose, par groupe de 3, depuis le matin jusqu'à environ 11 heures. Toujours par tous les temps, hein, pieds nus dans les sandales de paille, etc. Donc, voilà. Alors, ça fait tomber l'amour propre et les désirs, hein, la mendicité. Et quand on revient de mendicité, à nouveau, on chante des sutras pour les esprits affamés.
Les esprits affamés, hein, les gaki, oui.
Alors, il y a aussi à rajouter deux fois par an ce qu'on appelle les seishin, là, c'est ce qui veut dire esprit recueilli. Ce sont des méditations sans interruption durant un certain temps, de jour comme de nuit. Il y a dans l'année 6 semaines de méditation intense, dans lesquelles on se lève donc beaucoup plus tôt et on se couche beaucoup plus tard. Il y en a 3 en été, 3 en hiver. La plus importante est la Rohatsu Oseshin qui se tient du 1er au 8 décembre où on fait Zazen 20 heures sur 24.
20 heures sur 24, assis, le dos droit.
Oui. Les oreilles dans l'alignement des épaules et le nez dans celui d'une ombrelle.
Et il y a le coup de bâton, je crois. Hein, si,
non, mais attendez, le bâton,
ah,
ça va venir.
Ça va venir.
Ça va venir. Il faut garder les plaisirs pour la fin. Alors, cette grosse, grosse fête-là, c'est parce que Bouddha a atteint l'éveil le 8e jour du mois Rogetsu, le mois de décembre. Donc, ça, c'est pour ça que ça se fait à ce moment-là. Donc, ordinairement, c'est donc le samu, le travail, oui. Balayage, nettoyage, etc. Selon le principe, qui ne fait rien, ne mange rien. Et ça, c'est le maître Yakujo, qui, malgré ses 80 ans à travailler dans les champs, a édicté cette règle. Alors, un jour, un disciple s'en est ému et, croyant bien faire, lui a caché sa faucille. Ah. Le maître est demeuré dans sa cellule, le ventre vide, sans paraître au repas.
Il s'appliquait à lui-même, quand même.
Exactement.
Ça, c'est beau.
C'est une méditation active, il est donc exclu qu'on communique, même par un chuchotement d'ailleurs, dans ce genre de choses. Et donc, une journée sans travail est un jour sans pain. Ah. Voilà, ça c'est la base.
Alors, ça, cette citation-là nous ramène au repas, parce qu'on a fait le premier repas, mais le deuxième, c'est quoi?
Ah oui, alors il y a le deuxième, ah, bah, oui, oui, c'est ça, deux repas par jour. Alors l'autre est un petit peu plus copieux, hein. Il y a 3 mesures de riz pour 7 d'orge. Ce repas de midi, donc qu'on appelle saïsa, ce qui veut dire table de carême, donc déjà on voit que
c'est pas vrai.
C'est la récitation des sutras qui commence, et puis ce brouet donc est accompagné d'une soupe de miso et toujours de tranches de navets macérés. Ouais. Autrement dit, ils mangent toujours la même chose.
Toujours la même chose. Hein. Ouais.
Voilà. Alors. Ça leur permet, vers 3 heures de l'après-midi, avant la méditation du soir, d'aller lire et de réciter des textes écrits en chinois, d'ailleurs, en plus. Voilà. Et puis arrive donc la méditation du soir, qui, elle, est beaucoup plus longue. Elle est le double, 80 minutes. Par contre, on peut se détendre par une marche méditative entre 2 bâtonnets dansant et aller aux toilettes, hein, puisque chaque fois un bâtonnet, c'est 40 minutes.
Oui.
Après ça, il faut nettoyer, évidemment, toutes les salles où on a été. Donc, le pavillon de Bouddha, le pavillon de méditation, le pavillon, le hojo, là où réside le maître. Extinction des feux à 21h30. 2 heures plus tard, donc, s'il y a une grande retraite. Ronde de nuit par un moine qui, lui, ne se couche pas. Il fait la ronde de nuit pour vérifier s'il n'y a pas d'incendie, etc., etc. Et puis d'autres moines vont quand même, au lieu d'aller se coucher, ils vont retourner méditer, mais dans le jardin ou sur la véranda.
Il y en a qui font du zèle.
Ils font du zen-zèle. Du zen-zèle. Et quand il y en a, parce que ça peut arriver aussi, un repas du soir. Alors ce repas du soir, il est fait avec les restes du midi. Donc tous les légumes de rebut qui restent dans un coin, qui traînent et tout ça, le fond de, voilà, on récupère un peu tout ça. Lui est considéré comme un remède en fait.
Ouais.
Et puis quelquefois, quand il y a des invités spéciaux, bon, il peut avoir, voilà. Mais généralement, non.
Il n'y a pas des repas de fête quand même?
Il y en a, mais relativement peu. Et de toute façon, le repas de fête, c'est pour l'invité, c'est pas tellement.
Revenons un petit peu à la méditation. Rappelez-nous, elle se pratique.
Donc, elle se pratique dans le Zendo. Ça, c'est comme ça qu'appelle le pavillon de la secte Rinzai, ou le Sodo pour la secte Soto. C'est le pavillon dans lequel siège Monju, qui est un bodhisattva à la vision pénétrante, qui est le symbole de la sagesse de Bouddha. Dans le zen, faut dire aussi que tout est minutieusement ritualisé. Donc la manière de tenir le pupitre à sutra, de marcher, de ranger son futon, de se laver, de faire le moindre geste, tout est calibré. La moindre hésitation éloignant de l'éveil. Cette attention permanente est très fatigante, surtout lors des méditations. Et là, la somnolence guette, surtout à 3h30 du matin. Pour cela, un seul remède, le bâton d'éveil, le kyosaku. Alors, il n'existe que dans le zen, hein. Il n'y a que dans le zen, ça existe. Dans le soto, le kyosaku est administré à la demande du méditant.
Ah oui, c'est le méditant qui demande un
bâton. Oui, on baisse la tête, les jambes sur le côté, et vlance, on ramasse un coup. Dans le rinzai, il est à la discrétion de la personne qui est en charge de la salle. Quand la personne voit que ça tangue un peu, il arrive,
bon. Plaf.
Dans les deux écoles, il ne s'agit pas d'une punition, hein, ça faut le dire. C'est un moyen propre à réveiller et revigorer le participant qui peut être participé. Donc c'est pour son bien. Lorsque le mental est agité et qu'un tourbillon de pensées court à travers l'esprit, des tensions se créent. Lors de la dépression ou de la somnolence, apparaît, hein, à ce moment-là, donc la posture se relâche. Parce que, voilà, c'est ça le signe. Donc c'est pour ça qu'on demande le kyosaku. C'est pour retrouver la chose. Alors ce kyosaku, il ne se donne pas n'importe comment, n'importe où. Hein. Il se donne sur l'épaule droite d'abord, puis sur l'épaule gauche. Il frappe une zone précise qui est riche en points d'acupuncture et qui remet l'énergie en mouvement et rafraîchit la concentration.
Oh bah c'est un cadeau, en fait.
C'est un vrai cadeau.
D'une certaine manière.
Donné et reçu avec respect, même. Il sert à ramener le pratiquant à l'attention juste du corps et de l'esprit. Il aide à couper les illusions, élève l'esprit à une plus haute dimension. Et d'ailleurs, sur ces bâtons, très souvent sont calligraphiées des sentences telles que « ne pas se faire d'illusions ».
Il nous reste 1 minute 30. Moi, il y a une question qui me vient à l'esprit. Comment se fait-il qu'en Europe, on considère le zen comme une philosophie cool? Je pense à cette chanson de Zazie, « Zen, soyons zen ». C'est complètement planté, la pauvre, là.
Oui, ben non, oui et non, parce que comme dit le maître Rindo Fujimoto, qui critique beaucoup ça, le zen en Occident a suscité un engouement considérable. Oui. Il a été réinterprété sous un aspect très humaniste, en fait non religieux. Donc comme une posture qui permet d'apprécier la vie juste comme elle est, qui s'adapte donc à une clientèle prospère, affairée, qui voilà quelque chose qui est porteur de valeur, qui ne demande pas énormément d'efforts non plus.
C'est bobo, quoi, on va dire.
Oui, voilà, c'est un petit peu ça. Donc, du coup, ce fameux style zen, pour désigner quelque chose de calme et de tranquille, à la limite, pour les plus intellectuels, cette idée de vide, de vacuité, d'impermanence. Voilà, donc, ce gène qui suggère la simplicité, la retenue, la perspicacité qu'on peut déceler dans la pratique du thé, des fleurs, de la peinture, dans les arts martiaux, c'est très romantique, en fait, pour un occidental. Et le maître Fujimoto considère que c'est un cliché qui est tout sauf religieux. Ouais.
Pour terminer, rappelez-nous les 7 principes de l'art du zen.
Alors, l'art du zen qui est issu de tout ce qu'on vient de dire, c'est la symétrie. Donc la non-symétrie, la simplicité, l'austérité, le naturel, la subtilité, la liberté absolue, et ça ne vous a pas échappé, la sérénité.
Dominique, merci beaucoup, on va méditer là-dessus et on se retrouve dans 4 semaines pour une nouvelle édition d'Instant Japon.